Trois dirigeants, Emmanuel Macron, Abdallah II, roi de Jordanie, Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien. Tous les trois signataires d'une tribune dans Le Monde qui appelle à l'arrêt des combats. Et ils écrivent « La guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement ».
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre d'un fait d'actualité. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
Cette semaine, Macron appelle au cessez-le-feu à Gaza. On vous explique. On vient d'entrer dans le 7e mois de guerre entre Israël et le Hamas, avec un bilan qui frôle maintenant les 34 000 morts à Gaza. C'est le moment choisi par Emmanuel Macron pour signer une tribune, notamment dans le journal Le Monde. Le texte exige le respect des résolutions de l'ONU et un cessez-le-feu à Gaza. Trois raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, on va voir, Laurent, que l'enjeu en ce moment, c'est la bataille de Rafah. Est-ce qu'elle aura lieu ou pas ? On va voir qu'elle pourrait être dévastatrice. On s'interrogera aussi sur ce tir ciblé au nord de Gaza. Hier, les Israéliens ont éliminé trois des fils d'Ismaël Haniyeh, le principal dirigeant du Hamas. Enfin, on verra que malgré tout, les négociations se poursuivent entre Israël et le Hamas pour essayer de parvenir à une trêve.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Laurent Sègre.
Nicolas, la question la plus importante aujourd'hui, c'est donc, est-ce que la bataille de Rafah va avoir lieu ?
Oui, parce que pour comprendre, il faut avoir en tête la physionomie de la bande de Gaza. C'était déjà, avant la guerre, un des territoires les plus peuplés du monde. 2,5 millions d'habitants dans un territoire qui fait à peine 40 km de long sur une dizaine de large. Les Israéliens, après le 7 octobre, sont arrivés par le nord et ils ont repoussé les habitants, d'abord de Gazaville, la capitale, vers le sud, où ils sont arrivés dans la deuxième ville de la bande qui s'appelle Ran Younes. Puis les Israéliens sont rentrés dans Ran Younes et ont encore poussé les populations vers le sud. Et ils sont arrivés tout en bas à Rafah. C'est une ville de 200 000 habitants. C'était une ville de 200 000 habitants avant la guerre. S'y presse aujourd'hui 1,5 million d'habitants. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est l'endroit le plus peuplé du monde. Jusqu'à présent, les Israéliens n'ont pas attaqué la ville surpeuplée de Rafah, mais ils disent constamment qu'ils vont le faire, qu'ils veulent terminer le boulot, aller jusqu'au bout, trouver les principaux chefs du Hamas qui sont censés s'y trouver. Netanyahou a même dit cette semaine, on a la date, on sait quand on attaquera, donc il y a cette menace d'attaquer cette ville, ce qui pourrait être absolument dévastateur. Il faut imaginer une guerre dans ce territoire le plus peuplé qu'on peut imaginer. Et donc voilà, c'est vraiment l'enjeu en ce moment de savoir si oui ou non il ira.
Il a même dit, on est à un pas de la victoire, je crois que c'est son terme exact, et les troupes israéliennes ont quitté une autre ville, celle de Ran Younes, la plupart des troupes dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, alors c'est une manœuvre effectivement qu'on n'a pas bien compris. Les troupes israéliennes étaient dans Ran Younes, la deuxième ville de Gaza, depuis des semaines, ville qui a été transformée en un champ de ruines. Hein. L'essentiel de Ran Younes a été détruit, et effectivement, curieusement, ces derniers jours, les chars israéliens ont quitté Ran Younes. Alors, deux explications possibles. Un, ce serait le début de la fin des opérations militaires et un début de retrait israélien. Mais l'autre, et je pense que c'est la plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de quitter Ran Younes pour que la population de Rafah, lorsque Rafah sera attaquée, puisse se rendre quelque part. Parce qu'il faut bien que, si on veut attaquer Rafah, si les Israéliens veulent attaquer Rafah, il faut bien que la population puisse fuir quelque part. Et donc, pourquoi pas à Ran Younes. Il faut voir que ces deux villes se touchent. Hein. En réalité, quand vous circulez dans le sud de la bande de Gaza, vous ne savez jamais si vous êtes à Ran Younes ou à Rafah. C'est une seule et même grosse agglomération.
Alors, dans ce contexte, Emmanuel Macron a signé cette semaine une tribune avec le président égyptien et le roi de Jordanie pour mettre en garde les Israéliens.
Oui, alors c'est le combat de Joe Biden depuis des semaines. Hein. Les Américains exercent de très très fortes pressions sur les Israéliens pour ne pas attaquer la ville de Rafah. Et effectivement, Emmanuel Macron s'est joint à cet appel en co-signant une tribune dans quatre grands journaux, dont le Washington Post et le journal Le Monde, co-signé avec le président égyptien Al-Sisi et avec le roi de Jordanie Abdallah II. Et donc ces trois chefs d'État disent que ce serait un scénario cauchemar si si l'armée israélienne devait attaquer Rafah. Il parle des souffrances et des pertes humaines énormes qu'entraînerait cette offensive sur Rafah. Le président égyptien, lui, il a aussi une autre raison pour tout faire pour que cette bataille n'ait pas lieu. C'est que si les Israéliens attaquent Rafah par le nord, eh bien forcément, on va avoir des mouvements de foule pour fuir ces combats, et au sud de Rafah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la barrière, la frontière très étanche entre Gaza et l'Égypte. Et donc, on peut imaginer, c'est un scénario que les Égyptiens ont en tête depuis le début, que dans ces cas-là, quand votre vie est en jeu, bien, vous forcez le passage. Hein, le point de frontière de Rafah pourrait être envahi et la foule passerait de l'autre côté au Sinaï.
Des gens du Hamas dans cette foule, potentiellement. En plus.
Alors, des gens du Hamas, mais surtout un nombre énorme de réfugiés. Hein. Il y a 1,5 million de personnes dans cette ville. C'est potentiellement 1,5 million de personnes qui pourraient se retrouver côté égyptien. Et ça, ce serait une catastrophe humanitaire. Il faudrait accueillir tous ces gens-là, y compris, vous l'avez dit, leurs leaders islamistes du Hamas. Les Égyptiens ne veulent pas en entendre parler. Et donc, à plusieurs reprises depuis le début de ce combat, les Égyptiens ont dit attention, si ça devait se passer, si on devait se retrouver avec sur les bras 1,5 million de réfugiés, on ne ferait rien pour les empêcher de prendre des bateaux pour aller où ? Pour aller en Europe, hein, pour gagner Chypre, Lampedusa, l'Italie, la Grèce, Malte. Et donc ça, c'est une menace que font peser les Égyptiens sur les Européens. Ils leur disent, attention, si jamais ces réfugiés de Gaza arrivent chez nous, on fera rien pour les empêcher de venir chez vous, les Européens.
Alors, pour mieux comprendre ce que vivent en ce moment les Palestiniens de Gaza, un témoignage, celui d'Asma. Elle est professeure de français à Khan Younes, au nord de l'enclave palestinienne. Elle a dû quitter son appartement parce qu'il a été touché par une frappe il y a 3 mois. Elle vit depuis avec sa sœur et son beau-frère à Rafah, là où Israël menace de frapper à nouveau, tu le disais. Et elle s'est confiée à Caroline Philippe.
Personne ne peut imaginer 6 mois sans bien dormir, 6 mois sans bien manger, sans bien boire, 6 mois sans électricité, sans réseau d'Internet. On a toujours des difficultés pour avoir des appels téléphoniques simples. On est dans notre pays, mais on est réfugiés. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'espoir.
Alors, la dernière info, Nicolas, c'est qu'on a appris que 3 fils du dirigeant du Hamas ont été éliminés par Israël.
Oui, ce sont les fils d'Ismaël Haniyeh, donc, qui est le leader politique du Hamas, pas le leader militaire. On dit même qu'il n'était pas au courant de l'attaque du 7 octobre. En tout cas, c'est une façon de le présenter comme quelqu'un d'un petit peu plus modéré que Yahya Sinwar, qui est lui le chef militaire et qui reste l'homme le plus recherché par Israël, qui se trouverait toujours à Gaza. Bref, les trois des enfants de la nombreuse famille d'Ismaël Haniyeh se trouvaient dans un camp de réfugiés qui est juste au nord de la ville de Gaza, qui s'appelle le camp Shati, qui est d'ailleurs l'origine de la famille d'Ismaël Haniyeh qui vit dans ce camp depuis 1948. Donc les 3 fils, mercredi, le jour de l'Aïd, c'est-à-dire la fin du Ramadan, se déplaçaient, les 3 fils et 4 petits-enfants d'Ismaël Haniyeh, lorsque un tir ciblé a fait exploser leur voiture, causant la mort donc au moins ses 3 fils et 4 des petits-enfants. Le leader du Hamas, depuis Doha, a aussitôt remercié Dieu pour avoir fait de sa famille des martyrs.
C'est assez dingue, cette déclaration.
Voilà, avec une sorte de cynisme ou de sang-froid, en tout cas, et aucune colère ni tristesse apparente. Il a annoncé la mort de ses 3 enfants. Les Israéliens ne l'ont pas confirmé tout de suite. Et puis finalement, quelques heures après, ils ont confirmé qu'effectivement, ils avaient tiré sur ses 3 fils du leader principal du Hamas, en expliquant que l'un d'entre eux, au moins, avait des fonctions militaires importantes, que c'était le commandant d'une brigade. On considérait plutôt jusqu'à présent que ces 3 enfants avaient plutôt un rôle financier au sein du Hamas. C'était plutôt des gens qui s'occupaient soit de blanchir de l'argent, soit plutôt simplement de distribuer un petit peu des montagnes d'argent dont dispose le Hamas à la population palestinienne. En tout cas, donc, ça prouve quand même quelque chose, c'est que dans cette région au nord de la bande de Gaza, que les Israéliens contrôlent depuis donc maintenant quasiment 6 mois, eh bien, il y a encore des membres de la famille du patron du Hamas, donc des membres du Hamas, qui se promènent librement un jour de fête et qui circulent en voiture. Donc, c'est quand même assez troublant sur le contrôle qu'exerce l'armée israélienne. On a l'impression qu'ils ont tout rasé, que dans le nord de Gaza, ils sont partout et qu'ils contrôlent tout. Eh bien non, il y a encore des gros poissons, des membres du Hamas qui circulent dans le nord de la bande de Gaza. C'est assez intéressant.
Et malgré tout, malgré ce sang qui coule sans s'arrêter, les négociations se poursuivent en vue d'une éventuelle trêve, Nicolas.
Oui, c'est ça qui est fou. C'est que malgré la violence des combats, malgré cet attentat, malgré la famine dont on parle, qui menace surtout au nord de la bande de Gaza, eh bien, le dialogue ne s'est jamais vraiment rompu. Il a lieu en ce moment en Égypte, donc avec les intermédiaires que sont l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Et en jeu, une trêve en échange de la libération d'otages et de la libération de prisonniers palestiniens détenu par Israël. Alors, par moment, on est allé très loin dans les possibilités. On a envisagé des trêves très longues. On a envisagé la libération de tous les otages. Ils sont encore 130, les Israéliens retenus à Gaza. On a envisagé la libération de tous les prisonniers palestiniens en Israël, c'est-à-dire quelques 800 personnes. Bon, là, on est revenu dans un cadre un petit peu plus réduit. Ce qui se négocie en ce moment, c'est 6 semaines de trêve en échange de la libération de 42 otages israéliens retenus à Gaza et en échange aussi de 8 à 900 Palestiniens incarcérés en Israël et qui pourraient être libérés. Il n'y a toujours pas d'accord. Ça fait des semaines et des semaines qu'on nous dit ça progresse, on y arrivera, ça progresse, on y arrivera. En tout cas, le dialogue n'est pas rompu.
Et aussi, vous me disiez, dans cet accord en négociation, la possibilité d'amplifier l'aide humanitaire qui fait cruellement défaut.
Oui, alors c'est donc 6 semaines de trêve qui permettraient effectivement le passage de 4 à 500 camions par jour qui rentrerait avec de l'aide humanitaire à Gaza.
C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes et évidemment sur l'appli RMC. Nicolas, on te retrouve très vite.
À bientôt, Laurent.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.